Madame Julien, aujourd'hui, Monsieur Julien va continuer à nous décrire le XVIIIe siècle. Quelle musique avez-vous choisie pour cette émission?
Oui, le 18e siècle est là, avec une ouverture d'esprit nouvelle, y compris dans le domaine musical. C'est l'heure de la musique dite classique. Arrêtons-nous sur ces mots, musique classique, que l'on emploie souvent à contresens. On peut dire qu'un art est classique lorsque la liberté de l'artiste est limitée par la tradition. Cette définition est empruntée à Roland de Candé dans son livre « L'invitation à la musique » et me paraît la plus juste qui soit. La liberté de l'artiste limitée par la tradition. Un nom domine le début du XVIIIe siècle, celui de Jean-Sébastien Bach, qui mourra en 1750, entouré d'honneurs. On sait qu'il avait acquis une prodigieuse culture. On sait qu'il est un des grands techniciens de l'harmonie, mais on sait peut-être moins que c'est un homme sincère, chaleureux et passionné. Retenons avant tout que Jean-Sébastien Bach domine l'histoire de la musique, le passé où il plonge ses racines et l'avenir qui l'éclaire. La citation est encore de Roland de Candé. Nous écouterons des extraits du concerto numéro 2 pour violon et orchestre en mi majeur, trois extraits de l'Adagio, puis l'Allegro final.
Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez montré comment le règne de Louis XIV a complètement bouleversé l'administration communale.
Oui, on l'a vu, l'administration communale est passée tout entière, et de la volonté du roi, entre les mains d'un petit groupe de privilégiés, qui sont les petits nobles locaux, les grands bourgeois, gens de robe, soit au total pour notre communauté, une vingtaine de familles qui sont tous, soit parents, soit alliés ou amis, qui se partagent honneurs, prépendes et pouvoirs, ce qui donne un petit groupe qui se réduira encore lorsque Louis XIV, par son ordonnance de septembre 1714, exclura les nouveaux convertis du consulat et du conseil politique, parce qu'il n'a pas confiance en eux, et que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne remplissent pas les devoirs de la religion. Alors, à partir de là, on aura beaucoup de mal à chacune des mutations consulaires annuelles de septembre à remplacer les consuls en charge par des hommes remplissant à la fois ces deux conditions qui sont être ancien catholique et être aussi fort taillable, c'est-à-dire fortement imposé. On en sera réduit à prendre des étrangers à la ville, quelquefois, c'est-à-dire des nobles comme le seigneur de la Roque, qui habite ici quand il y pense, pour occuper le poste de consul ou bien à maintenir en place, hein, comme par exemple Para ou Lacombe. Et cela contrairement au règlement édicté par le pouvoir en 1681 et aussi aux sacro-saintes coutumes de la ville auxquelles on se réfère toujours. C'est pourquoi les registres de délibération de cette époque, qui sont remplis de la relation de ces multiples et ennuyeuses tractations, ou des protestations incessantes d'obéissance et de soumission à Monseigneur l'intendant, et on voit à chaque fois la courbette profonde qu'ils font tous, ces registres sont d'une lecture fastidieuse. Et il faut vraiment savoir lire entre les lignes pour se rendre compte de l'état d'esprit réel de la population. J'ai dit la dernière fois à quoi on en était arrivé. On en était arrivé à voir des consuls, n'est-ce pas, qui se faisaient payer leur robe consulaire, alors que depuis des années, c'était la communauté qui la leur payait. J'avais dit aussi la dernière fois qu'on notait ici et là, dans certains procès-verbaux, on notait des intrigues, des brigues et des cabales de certains mal intentionnés qui faisaient se faire nommer consul. Mais il y avait aussi et cette pratique qui a été découverte par hasard un jour, c'était les fameux droits sur le vin étranger pénétrant en ville.
Oui, vous nous en parlez un peu de ce vin étranger parce qu'il me semble que c'est du vol vraiment de la part des consuls.
C'est du vol de la part des consuls parce que ça c'est une très très vieille tradition. Le vignoble Saint-Antoninois est très ancien. On ne sait pas à quelle époque il remonte, peut-être à l'époque gallo-romaine, mais enfin c'est un vignoble très ancien et qui donnait dans notre communauté, grâce aux vignes qui était sur toutes les pentes des collines, de Pechdax, de Rodanèse, de Saint-Bernard, de Fondépio, de Biars, etc., sans parler d'autres vignes qui se trouvaient dans la région de Bariac et de Nego Cravo, ou de Negro Cravo, comme vous voudrez. C'était des vignes partout. Et alors, il y avait une production à Saint-Antonin-de-Vin largement suffisante pour la population. Mais ce vin n'était pas un vin de très haute qualité. Il fallait redouter la concurrence des vins qui venaient du Gaillacois et aussi des vins blancs de Varennes qui ont toujours été très prisés dans la région. Alors, pour protéger la production locale, qui sans cette protection ne se serait pas vendue, surtout que nos vignerons de l'époque devaient être très maladroits, parce qu'à tout moment, il est question de règlements pris par les consuls qui fixent le prix du vin. Du bon vin, attend le quart, ou attend la pinte, ou attend la pipe, et qui n'en mettent jamais de fixer en même temps le prix du vin piqué, ou du vin tourné, ou du demi-vin. Autrement dit, il y avait toujours dans les caves des Saint-Antoninois du vin imbuvable, mais il faut quand même le vendre, on le vendait à bon marché. Bon, alors, pour protéger la production de vin local, il était interdit de vendre du vin étranger dans la ville avant une certaine période, en principe le 1er septembre. C'est le 1er septembre qu'on autorisait l'entrée des vins étrangers, on comprend, parce qu'à ce moment-là, on approchait des vendanges, et, ma foi, on pouvait supposer que le vin Saint-Antoninois était à peu près épuisé. Mais le vin étranger ne pouvait entrer à Saint-Antonin qu'en payant un droit très important de 40 sous par pipe, c'est-à-dire 2 livres par pipe. Une pipe, c'est un demi-muit, pas tout à fait, c'est 400 litres à peu près de vin. Hein. C'est très difficile de faire les équivalences avec le nombre de litres et la contenance d'une pipe. Mais c'était une somme importante. Et alors, on s'aperçoit tout d'un coup, en 1705, que les consuls, depuis des années, n'ont jamais rendu compte de ces droits qui rentraient. Ils se le mettaient dans la poche. Alors évidemment, on imagine que l'état d'esprit la population, il n'était pas toujours favorable aux consuls. Et la population murmure. Seulement, voilà, elle subit. Que faire d'autre ? Et elle subit durement de nombreuses épreuves, pas seulement celle-là. Elle ne subit pas que le népotisme et la pas d'argent des consuls. Elle subit de nombreuses épreuves qui marquent la fin de ce règne si long de Louis XIV. Mais ces épreuves n'apparaissent pas être le souci premier des consuls. Il faudra attendre le mois de juin 1709 pour qu'ils fassent allusion dans leur procès-verbal à la grande misère de la communauté. Et encore, est-ce en exécution d'un arrêt du Parlement de Toulouse qui prescrit aux consuls des communautés d'assurer la subsistance des pauvres ? Chacun sait, enfin du moins je le pense, que l'hiver de 1708-1709 fut d'une exceptionnelle rigueur en France, et en Europe aussi d'ailleurs. On connaissait déjà, depuis 1692 en Europe, une période que les géographes, les historiens ont appelée le petit âge glaciaire, qui se caractérisa par des hivers rigoureux. Mais celui de 1709 fut particulièrement rigoureux. C'est en janvier que le froid se maintint pendant une quinzaine de jours. Les rivières et les fleuves et les lacs étaient gelés. Les arbres éclataient par le gel, arbres fruitiers surtout. Et alors, chose incroyable, les graines de toutes les semences gelées en terre, les vignes gelées. Tout cela se traduit ici, au retour du printemps, par une effroyable disette de pins, favorisée évidemment, vous le comprenez, par les accapareurs qui, voyant ce désastre, on l'a trouvé le moyen de se préparer des bénéfices considérables. On ne livre plus de grains à partir d'avril aux pierres du marché. Il n'y a plus de pain pour les pauvres, dont le nombre s'est considérablement accru. Pauvres de la ville, sans doute, pauvres de la campagne aussi, mais surtout pauvres étrangers partis sur les chemins, fous de famine, et qu'on ramasse morts au bord de la route, telle cette fille inconnue de 15 ans qui, au mois de mai, sera ramassée au-devant de la porte de la condamine. L'été pluvieux de 1709 aggrave la situation, compromet les récoltes de fourrage, le bétail maigrit, devient moins nombreux, la viande devient rare. La situation ne fait qu'empirer à mesure que l'année avance. Et cela, nous ne le savons pas. Les consuls n'en parlent jamais. Mais la lecture du registre d'état civil de 1709 est particulièrement révélatrice. Parce que les chiffres, au fond, ils parlent d'eux-mêmes. Cette année-là, on enregistre 132 naissances pour la paroisse de Saint-Antonin, alors que la moyenne annuelle dépassait 150 en une année normale. Donc, baisse des naissances. On enregistre 16 mariages seulement, au lieu de 30 à 40 en année moyenne. Mais surtout, on enregistre 151 décès, au lieu des 80 à 90 annuels. C'est une progression énorme. Et ces décès s'accroissent. Curieusement, à partir du mois de septembre, écoutez bien, pour le seul mois d'octobre, on en comptera 42 dans le mois. Autrement dit que tous les jours presque, on enterre du monde, et même plus, d'une personne par jour. Et parmi ces décès si nombreux, qui est-ce qui meurt? Ce sont des enfants, ce sont des vieillards. Et cela continuera encore en 1710, avec seulement, et vous le comprenez bien, 90 naissances. Alors que voyez, en 1709, il y avait eu 132 naissances encore. Cette année, il n'y en a plus, en 1710, que 90. Il n'y a plus que 10 mariages. Et il y a 136 décès. Et curieusement, quand on parcourt les registres d'état civil, on constate que le nombre de décès va se maintenir à un chiffre élevé pendant les années suivantes. 136 donc en 1710, 121 en 1711, 100 en 1712, 178 en 1713. Voyez toute cette fin du règne. On dit que la fin du règne de Louis XIV a été obscurcie par les deuils familiaux qu'il a eus et la misère de notre pays. Eh bien, je comprends. Seulement, c'est les autres qui mourraient à sa place, peut-être. D'ordre de l'intendant. Mais les consuls, ça ne les aime pas, ça. C'est pas eux qui en parlent. C'est le registre d'état civil le porte, mais eux, ils n'en parlent jamais, de cette grande misère. Mais d'ordre de l'intendant, les consuls devront acheter en septembre 1709. C'est l'intendant qui leur en donne l'ordre. Tout le grain de semence pour le répartir entre les laboureurs et les métayers. Il n'y a pas de blé pour la semence. Seuls les très gros propriétaires ont des réserves. Et cette situation difficile durera encore pendant des années à cause de conditions climatiques défavorables, jusqu'en 1712, où on achètera encore 504 setiers de froment, 3 setiers de seigle, 28 setiers d'orge, 6 setiers d'avoine et 7 setiers d'air. Curieusement, cette année-là, on n'a pas acheté du gros millet, c'est-à-dire du maïs, qui depuis des années déjà est utilisé dans la rotation des cultures, dans l'assolement. La misère est grande et les pauvres innombrables sont là qu'il faut nourrir. Alors, que faire? Les consuls décident qu'on donnera une livre de pain par jour, une livre valait à peu près 430 grammes, à chacun des pauvres. Quand on a pu se procurer le blé nécessaire, parce qu'on n'a pas de blé, alors on en achète au sieur Jacques Lacombe, marchand, qui était consul. Il en a, lui, encore, en juin 1709.
Oui, les consuls n'en parlent pas, c'est peut-être parce que, justement, ils sont entourés par des gens à qui ce malheur apporte beaucoup d'argent.
Mais je pense, oui. Enfin, il ne faut pas quand même être trop machiavélique, mais je pense que ça... Enfin, écoutez, ça me paraît quand même extraordinaire, hein, que dans aucun des procès-verbaux des réunions du Conseil de ville de cette année-là, on ne s'apitoie au moins pour la forme, sur le malheur du temps, sur la pauvreté des gens. Non, on décide comme ça froidement que, ma foi, on a trouvé du blé pour faire du pain, qu'on l'achètera à Jacques Lacombe. Oui, et d'ailleurs, en principe, l'intendant avait dit qu'il fallait que ce soit les ecclésiastiques qui fournissent le pain nécessaire aux pauvres, en donnant un sixième de leurs revenus, c'est-à-dire les fameuses dîmes. Vous savez, les ecclésiastiques percevaient des dîmes sur toutes les récoltes. Alors bon, on trouve cette chose effarante dans le procès-verbal du mois de juin de la réunion du Conseil de ville, qu'après enquête faite par les commissaires, il s'avère que les revenus des ecclésiastiques sont insuffisants et que le sixième serait une chose dérisoire qui ne permettrait pas de donner la livre de pain à chacun des pauvres. Alors voilà, on tourne la difficulté, et bien on va l'acheter ce pain, on va acheter le blé, on le fera moudre, on fera du pain et on donnera une livre de pain aux pauvres. Voilà ce qui me fait dire que les consuls s'occupent peu de la population. La misère est grande, la ville est sale. Et le maître Fifi en profite lui aussi. Le maître Fifi, c'était les boueurs. C'était le service de nettoiement. On l'appelait le Fifi, je ne sais pas pourquoi. Il demande qu'on augmente ses gages pour enlever les immondices. Il est évident que les gens malheureux, affamés, n'ont guère de goût à entretenir le devant de leur porte. La ville est dégoûtante. Et risque d'épidémie, bien entendu, il y en aura d'ailleurs. En conséquence de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix de la vie augmente. Aussi, la viande, par exemple la viande de mouton qui, en général, se vendait 6 sous la livre. 6 sous la livre, c'est-à-dire à peu près le tiers d'une journée de travail. En 1708, va passer à près de 9 sous en 1714, c'est-à-dire c'est une augmentation considérable de 50%. Cependant que les salaires des travailleurs de terre, eux, vont être taxés à 10 sous en été, 8 sous en hiver pour les hommes, mais pour les femmes, attention, que quelle que soit la saison, 4 sous.
Oui, vous pouvez nous expliquer, Monsieur Julien, pourquoi, alors que tout augmente, on taxe les salaires?
Ah ben, ma foi, ça fait partie des choses vendables. La force de travail d'un homme est un produit de consommation. Et puisqu'on taxe la viande, on taxe les denrées de première nécessité. On ne taxe pas que la viande, d'ailleurs. On taxe aussi la chandelle. Le pain est automatiquement taxé. Bon, eh bien, on va taxer aussi les journées de travail des hommes, en raison, justement, des difficultés que rencontrent les agriculteurs, et aussi bien les riches que les pauvres, à assurer les récoltes ordinaires, étant donné les dégâts qu'ont commis aux cultures les grandes gelées. Alors tout ça, ça leur pose évidemment des problèmes, ça leur donne des difficultés de gestion de leur exploitation, et ils pensent, il est normal peut-être aussi, d'améliorer ces difficultés, ou du moins de les pallier ces difficultés, en abaissant le prix du travail des ouvriers agricoles. Mais au prix où est la viande, quand on voit donc qu'un homme gagne 10 sous par jour, jours et que s'il veut acheter une livre de viande pour sa famille, elle lui coûte presque sa journée de travail, c'est quand même des conditions de vie épouvantables, ça. Alors on ne s'étonnera pas que des épidémies innombrables apparaissent, les fameuses épidémies de rougeole, de variole notamment, de dysenterie, et peut-être quelquefois des menaces de peste, mais plus tard. Outre et malgré cette misère effroyable, il faut subir les charges imposées par l'intendant. C'est l'époque où s'édifie depuis 1699 l'actuelle cathédrale de Montauban que tout le monde connaît. Quand vous contemplerez sa lourde et imposante façade baroque, ayez une pensée, vous qui m'écoutez, pour les paysans du Cos de Servanac, ces bouviers et ces métayers qui, chaque été, de 1706 à 1718, ont transporté avec leurs bœufs et leurs charrettes à Montauban les pierres, ces pierres blanches, des carrières de Lavorette et des granges, sur le chantier de la cathédrale que dirigeait l'architecte Simon. En cette année 1709 particulièrement difficile où nous avons vu que la famine régnait, 100 paires de bœufs seront réquisitionnées dans la partie de notre commune qui se trouve au-delà de Bonnette, c'est-à-dire dans la section de Servanac-Montpellache. 100 paires de bœufs. Et les bouviers ont beau dire, ils auront beau dire que leur bétail est maigre à cause du manque du fourrage, qu'ils en ont perdu ou qu'il est malade, que leurs charrettes sont trop faibles pour transporter ces énormes blocs de pierre claire. Ils ont beau arguer de leur misère, on les contraint par la force armée à assurer la corvée. Cette corvée qu'a imaginée jadis Colbert pour faire face à la réalisation des grands travaux. Et cette corvée durera des années. En 1716, les consuls de Caylus, Caussade, Montpezat, du Bias, le Bias, c'est Albias, ça veut dire le passage. N'oublions pas qu'à ce moment-là, les bouviers qui portaient les pierres à la carrière, de la carrière jusqu'à la, au chantier de Montauban, il fallait qu'ils passent au Bias, sur un bac. Il n'y avait pas de pont encore à Albias. Bon, les consuls de Caylus, Caussade, de Montpezat, Albias et de Saint-Antonin seront condamnés à 30 livres d'amende chacun parce que leur bouvier n'avait pas transporté le contingent de pierres requis. Il paraît cette année-là du moins, enquête faite, que les Bouviers, s'étant rendus à la carrière, faisant preuve de bonne volonté, n'avaient pas trouvé de pierres tirées dans les carrières. On se doute, tant sont nombreuses les références ou allusions de l'impopularité de cette corvée, impopulaire évidemment pour les Bouviers, pour les travailleurs, mais aussi pour les consuls, parce que si les Bouviers ne pouvaient pas porter la pierre, l'intendant n'hésitait pas, il mettait une amende sur les consuls. Cette corvée qui va devenir pratique courante, quand on va construire, et nous le verrons plus tard, ces grandes routes du XVIIIe siècle, la corvée, fléau de l'Ancien Régime.
Oui, alors Monsieur Julien, ces Bouviers, est-ce qu'ils sont dédommagés pendant qu'ils accomplissent la corvée ?
Ah, pas du tout. Pas du tout, et c'est injuste totalement, parce qu'encore si tous les Bouviers de la communauté de Saint-Antonin avaient été mis sur le même plan. On n'a pris que ceux de Servanac. Hein.
Oui, comment on les a choisis ?
Ah, mais c'est qu'on avait un état. On avait un état de tout. Il faut pas croire que c'était que dans le vague, l'administration. Les propriétés étaient encadastrées, on avait fait le cadastre de Colbert, et en plus, des enquêtes avaient été faites, et l'intendant avait réclamé, depuis 1702 ou 3, si je ne me rappelle pas bien la date, un état de tous les attelages de la communauté. On savait exactement. Et d'ailleurs, cette année-là, quand j'ai dit la 1709, on a demandé 100 paires de bœufs, parce que c'était 1709. D'ordinaire, c'était 122 paires de bœufs. On savait très bien qu'il y avait dans la partie de la commune de Saint-Antonin qui avait comme chef-lieu Servanac qu'on pouvait lever 100 paires de bœufs. Ils y étaient, il n'y avait pas de doute. Mais ils n'étaient pas du tout indemnisés. C'était la corvée, ne l'oublions pas, hein. Elle est gratuite. Celui qui travaille, celui qui conduit ses bœufs, il n'a rien du tout. Il faut qu'il y aille. Et alors imaginez-vous qu'ils n'étaient pas fiers d'y aller, surtout que ces corvées, c'est quand même unique. Elles étaient rendues, elles étaient fixées au mois de juin, juillet, août et septembre. Vous voyez, 4 mois. Et le contingent de pierre à livrer, qui était environ 1000 pieds cubes de pierre, hein, c'était pas les mètres cubes, c'était des pieds cubes de pierre, c'est 1000 pieds de pierre, et devait être livré un quart en juin, un quart en juillet, un quart en août et un quart en septembre, au moment justement des grands travaux. C'est quand même scandaleux, ça.
Oui, et on leur fournissait même pas la nourriture de leurs attelages?
Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, 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 rien du tout. Alors évidemment, ils trouveront des... Un jour, ils diront que les pierres sont trop grosses, que leurs charrettes sont trop petites et qu'il faut donner des charrettes. Et alors, effectivement, il y aura ce qu'on appellera les charrettes royales, c'est-à-dire de grands chariots fournis par l'architecte de Montauban-Simon, qui enverra des charrettes spéciales pour porter les plus gros blocs. Parce que manifestement, il y en a d'énormes, ces blocs, quand on les regarde.
Oui. Mais des attelages de bœufs, il n'y en avait pas que dans la région de Servanac. Il n'y avait aucune rotation, de fait.
Non, mais j'ai bien dit, là, vous avez, tout à l'heure, j'ai dit que les consuls de Caylus, de Montpezat, de Saint-Antonin et d'Albias, on voit bien quelle est la zone. La carrière d'extraction des pierres de la cathédrale de Montauban se situait essentiellement à la Vorette. Je serais curieux de savoir où elle était, parce qu'elle devait être importante. Hein. Mais il y en avait une autre aux Granges aussi. Si des gens m'écoutent des Granges, essayez de trouver où était la carrière qui avait les pierres de Montauban. Alors, on réquisitionnait les gens qui étaient autour.
Oui.
Mais il est sûr qu'on a fait payer à d'autres. Nous avons payé sous cette forme notre communauté, mais les communautés qui étaient voisines de la cathédrale de Montauban et qui n'avaient pas de carrière chez elles versaient un argent. Ainsi, nous, les Saint-Antoninois, nous avons payé pour la construction du port de Sète, 913 livres. On ne pouvait quand même pas aller porter des pierres à Sète. Alors là, on nous faisait payer de l'argent. Saint-Antonin, c'était des cailloux. Voilà.
Voilà, mais pour la cathédrale, c'était uniquement la région de Servanac.
Voilà.
On préférait l'efficacité à la justice à cette époque.
Ah ben oui, oui, peu importe la justice, il suffisait que les pierres arrivent là-bas. Dans ces années de disette, de maladie, de misère, les habitants subissent encore les levées de soldats et les réquisitions en bêtes et fourrages pour les armées de Louis XIV, toujours en guerre. Toujours en guerre à cette époque-là, n'est-ce pas ? Alors, notre communauté devait fournir chaque année 9 soldats appelés soldats de milice. C'était, si vous voulez, le service militaire. Et ces soldats, il fallait que la communauté les équipe de pied en cap, avec juste au corps, chapeau, haut de chausse, bas de chausse, souliers, fusils, gibernes, etc. Alors, ces soldats de milice, il fallait les prendre parmi les jeunes garçons et les hommes mariés depuis moins de 3 ans. Ça, c'était la règle. Mais on n'a jamais vu, là, que les consuls prennent un jeune garçon ou un homme marié de moins de 3 ans chez les notables saint-antoninois. On allait chercher des gens des classes pauvres. Alors, et vous comprenez qu'ils ne sont pas fous, ceux-là non plus. Très vite, cette levée, qui au début était volontaire, elle devient impossible, car dès que les jeunes gens, de la campagne surtout, et les pauvres de la ville, apprennent qu'on va lever les soldats de milice, les jeunes gens disparaissent, on n'en trouve plus. Alors on fait claironner à son de trompe, par affiche, qu'il faut que les jeunes gens se présentent. Ils ne se présentent pas, alors voilà que faire. Il faut quand même fournir les soldats de milice d'ordre de l'intendant, sinon les consuls seront condamnés à l'amende. Alors voilà nos consuls, les quatre consuls, avec leurs quatre valets consulaires, ils emmènent avec eux encore trois ou quatre hommes, et ils partent en campagne à cheval, l'arme à la main, et ils font le tour de la campagne, et ils ramassent. C'est le cas de le dire, hein. Ils ramassent le malheureux qui a oublié de se cacher. Et ils en arrêtent ainsi un nombre suffisant. Bon, il leur en faut neuf. Ils en arrêtent d'une douzaine ou quinze. Parce que chaque fois, il y en a qui s'échappent. Alors, pour être sûr de leur contingent, petit à petit, ils vont pratiquer la chose suivante. On ramasse donc cette troupe. On les maintient en sûreté par le cordon de valets consulaires et de consuls. Et on les enferme à la prison du Bioc, qui a disparu aujourd'hui. Et là, on attend. On attend que l'intendant, ayant reçu les ordres du capitaine chargé de les accueillir, nous dise « Allez, il faut livrer les soldats ». Alors on les enferme dans la prison, ils sont là, et au jour fixé, on les conduit au lieu prescrit. Ça peut être Rodez, ça peut être Cahors, ça peut être Villefranche, ça peut être Montauban. Mais pour les conduire au lieu prescrit, on les enchaîne. Et même, nous avons une facture où on a acheté quatre menottes. Il devait manquer quatre menottes cette fois-là. Et voilà le service militaire de cette époque.
Oui, devant l'impossibilité de trouver des volontaires, les consuls arrêtent donc les premiers venus, les plus maladroits
qui se font prendre.
Oui, c'est une injustice flagrante aussi.
On ne peut pas mieux dire.
Que devenaient ces soldats?
Eh bien, ces soldats, une fois incorporés dans un régiment, certains désertaient. C'est fréquent d'ailleurs que l'on demande au consul de rechercher un tel qui a déserté. D'autres s'habituaient assez facilement à la vie militaire, mon Dieu. Ils y mangeaient bien. Vous savez que les soldats, à ce moment-là, quand ils traversaient les régions prospères, ne se faisaient pas faute de piller ici et là dans les maisons ou dans les champs. Ils avaient la vie plus facile pour beaucoup d'entre eux que celle qu'ils auraient eue en restant à Saint-Antonin. Et certains finissaient leur vie là. Avant de mourir, évidemment. Nous avons de très nombreux testaments de ces jeunes soldats qui, avant de partir au service du roi, faisaient écrire par un notaire leurs dernières dispositions. Cela veut donc dire qu'ils considéraient que ce serait pour la vie qu'ils seraient là au service du roi. Non, Louis XIV n'était pas, à mon sens, le grand roi pour les gens de chez nous. Et lorsqu'il mourra le 1er septembre 1715, les consuls ne mentionneront même pas l'événement dans le registre consulaire. Le dictionnaire Larousse, s'apitoyant sur le sort de ce monarque, nous dit que ces dernières années furent fort tristes, accablées de deuils nationaux et familiaux. Il ne semble pas qu'ici, on ait beaucoup pleuré la mort de Louis XIV, puisqu'il n'y eut même pas de cérémonie religieuse à cette occasion.
Oui, c'est étrange parce que les consuls étaient quand même tout dévoués à Louis XIV.
Ben oui, mais vous savez, les consuls ils sont dévoués à Louis XIV, mais ils suivent le vent qui tourne, ils sentent que... on sent que quelque chose va se passer parce que le pays murmure depuis quelque temps. Tu le sais peut-être, Louis XIV a fait enregistrer dans toutes les communautés une ordonnance royale, un édit royal, par lequel il désigne comme successeur au trône deux enfants naturels qu'il a eus, le duc du Maine et le comte de Toulouse, qui en principe ne doivent pas régner. Et cela commence d'agacer les gens qui sont pour la légalité, pour, oui, la légalité, la légitimité du trône. Alors, je pense que ça explique un peu que même les petits nobles d'ici et les grands bourgeois d'ici aient oublié assez vite la mort de Louis XIV. Ils ont trouvé ça un peu trop fort. Mais par contre, si on ne parle pas de la mort de Louis XIV, on s'empresse d'enregistrer, mais alors d'une écriture nette et claire, dès le 12 octobre 1715, la lettre du duc d'Orléans, régent du royaume, qui annonce sa volonté de mettre fin aux abus des receveurs et percepteurs d'impôts, afin d'assurer, dit-il, le soulagement des peuples et d'établir plus d'équité et de justice. C'est bien quelque chose de nouveau, ça. Et ce n'est pas une simple intention, ni un vœu pieux. On va très vite noter un changement dans l'administration communale. Désormais, il sera rare qu'un noble soit élu au consulat. Dès 1716 même, on y voit entrer un bourgeois et en 1717, un marchand, quelques artisans et même un brassier seront élus au conseil de ville. C'est nouveau. Le sieur Parra, décidément celui-là, il a toujours envie d'être élu. Hein. Le sieur Parra, qui aux élections consulaires de septembre 1715, c'est un médecin, s'est maintenu consul au-delà des 2 ans réglementaires. Il s'est maintenu, c'était facile, il faisait des propositions de candidats pour le remplacer, et telle que sa proposition n'était pas admissible. Alors, la troisième fois, il refuse de changer, alors c'est une bonne façon pour se maintenir, ça. Il n'y a pas de candidat, je me maintiens. Eh bien, il s'est maintenu au-delà des 2 ans réglementaires. Il est démissionné d'office par l'intendant Delaugeois, il s'appelle Delaugeois l'intendant, qui en 1718 publie des ordonnances à l'encontre des consuls, en leur interdisant de se maintenir en charge au-delà du temps prescrit, en menaçant de sanctions les consuls préposés à la répartition et à la levée de la taille, qui favorisent leurs parents et amis, et ils les menacent d'amendes de 300 à 1000 livres. Évidemment, il y avait des abus. Hein. Enfin, il fait obligation aux consuls de rendre compte de leur administration et de d'en rendre compte à lui-même. Il fait défense de saisir les vêtements, meubles et outils de travail des contribuables qui n'ont pas pu payer leurs impôts. Enfin, il fait obligation d'employer pour les contraintes et les saisies, c'est-à-dire pour forcer ceux qui n'ont pas payé à payer, on a envoyé chez eux un huissier avec des sergents. Eh bien, il fait obligation que les gens qui seront envoyés, ces garnisaires, sachent lire et écrire et soient capables de donner un reçu. Ce sont bien des mesures nouvelles. Bien sûr, elles ne dureront pas. Hein. Les habitudes prises sont tellement importantes qu'on verra très vite la réaction réapparaître. Mais vraiment, on peut dire que là, en ce tout début du règne du jeune roi Louis XV, qui règne par personne interposée, le régent, le duc d'Orléans, on peut dire que le nouveau pouvoir, conscient des énormes abus dont étaient victimes les peuples, prend dès son installation des mesures contre l'injustice. À lire les registres de délibération des consuls, on voit, à partir de 1715, évoluer les mentalités. Les longues délibérations traduisent la grande attention portée par les consuls aux affaires de la communauté. On ne fait plus 23 pages sur une mutation consulaire. mais on mettra 20 pages dans une délibération de 1718 pour s'occuper des deniers communaux et des innombrables travaux d'entretien et de réparation qu'il faut effectuer au four, à la maison de ville, sur les chemins, pour les ponts. On sent le souci de contrôler l'augmentation du coût de la vie par une taxation des denrées de première nécessité, viande, pain, chandelle, tuiles à bâtir. Mais, malheureusement, en raison des intempéries et des mauvaises récoltes, la vie augmente encore, notamment en 1719, 1720 et 1721, où la livre grosse de moutons et de veaux atteindra et dépassera 10 sous. Vous voyez que c'est le salaire journalier d'un ouvrier agricole. On peut dire que c'est l'inflation qui caractérise ce début de règne.
Oui, quelles sont les causes de cette inflation ?
Ben là, je pense qu'elles sont faciles, elles sont naturelles d'abord. Une mauvaise récolte produisent la raréfaction des denrées, l'augmentation du coût de la vie. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous sommes dans une période qui s'ouvre maintenant à la grande industrie et au grand commerce. Depuis Colbert, d'ailleurs, il ne faut pas dire que ça a commencé là, s'est développée en France la grande industrie par la pratique des manufactures royales et autres. Des procédés nouveaux sont découverts. Le 18e siècle va être l'aurore des temps modernes en ce qui concerne l'explosion industrielle. Il y a aussi à cette époque-là, tout le monde le sait, le grand commerce avec les pays nouveaux découverts. Rappelez-vous la Compagnie des Indes et la fameuse banqueroute de l'AF. Le système capitaliste s'implante. Hein. Et alors, mauvaise récolte, accroissement de la production, facilité du commerce. Tout cela engendre naturellement l'inflation. Il se produit une sorte de crise qui est un déséquilibre entre les possibilités d'achat et l'offre faite. Et je crois que ça n'a rien d'extraordinaire. Nous connaissons un peu ça actuellement. Hein.
Vous nous avez dit que petit à petit, le pouvoir échappait aux nobles. Oui. Comment ils réagissent devant cet état de fait ?
Ils réagissent, les nobles, au fond, s'ils sont soutenus par le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où le pouvoir, et en l'espèce le régent, Philippe d'Orléans, et les intendants qui obéissent aux ordres du régent, ne se tenant plus, ces nobles, comment voulez-vous qu'ils se soutiennent tout seuls, hein? Ce sont au fond des parasites, ces gens. Qui est-ce qui a la puissance ici économique dans le pays? Ce sont les marchands, ce sont les artisans, c'est eux qui contribuent par leurs impôts à la vie de la communauté. Et de toute manière, la considération que pouvaient avoir les nobles de notre pays qui étaient de petits nobliaux n'était pas très grande. Alors, ils réagissent pas. Ils se font oublier un petit peu, jusqu'à ce que, malheureusement, nous le verrons plus tard, par un retour de la réaction, un intendant, l'intendant Legendre, rétablira en place certains nobles. Mais pour un petit temps, c'est la bourgeoisie maintenant qui s'affirme et qui va montrer son pouvoir. Un esprit nouveau souffle en notre pays depuis la Régence, et l'on comprend mieux à travers ces petits faits de la vie de notre communauté à cette époque que le peuple de France est surnommé le jeune roi Louis XV, le bien-aimé. On sent qu'un monde nouveau commence à déclore, que les communautés comme la nôtre entrent dans le concert de la nation, que va s'ouvrir une ère de progrès intellectuel et technique, sinon matériel, qui fera dire beaucoup plus tard à ce grand historien qu'est Jules Michelet, le grand siècle, je veux dire le 18e. Ces changements, ces progrès se marqueront aussi dans notre ville et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.